Émission On en jase, on continue notre couverture pour ce qui est du rapport du commissaire Galland, le juge Denis Galland, qui a déposé 600 pages de rapport. Et s'il y en a bien un, Antonine Iaccarini, qui est de retour avec nous pour cette entrevue. Anto, c'est le fun que tu sois là.
Ben, je ne voulais pas manquer ça.
Ben non. Et s'il y en a bien un que je sais qui fait son travail de façon rigoureuse, hey, il nous a dit en plus qu'il était amateur du caucus.
Ah ben là.
Hein? On est choyé. Mais je sais très bien qu'il fait son travail de façon rigoureuse. Il a participé au huis clos. Il est prêt à commenter. Il est en studio avec nous. C'est le porte-parole en matière de transport pour le Parti libéral du Québec, Moncef Déragy. Monsieur Déragy, merci beaucoup d'être en onde avec nous aujourd'hui à 13h32.
Ben, merci à vous deux. Je suis vraiment très content de sortir avec le rapport tout chaud pour venir m'entretenir avec vous.
Excellent. On a parlé beaucoup avec Antonine tout à l'heure dans le caucus de l'imputabilité auprès de la SAC, mais moi, je veux tout de suite vous attaquer au niveau politique.
Oui.
Est-ce que Geneviève Guilbeault doit démissionner parce que elle n'avait pas de souvenir expérientiel d'eux, mais était informée là, des dépassements de coûts?
Et pas uniquement Mme Guilbeault, parce que je vais vous lire un bout intéressant. La page 21 du sommaire. Et je dis parce qu'il y a plusieurs documents déposés aujourd'hui. Il y a les annexes, le sommaire et le rapport en entier. Le rapport en entier, c'est plus de 600 pages, mais je remercie les membres de la commission. Ils nous ont fait un sommaire qui est vraiment bien. Page 21. Quant à Éric Kerr, il est aussi informé en août 2020 du report d'échéancier. Il devient à ce moment-là inquiet de la suite, mais s'impliquera très peu après coup. Ainsi, la commission constate que, à la fin de l'été 2020, certains membres du gouvernement sont informés du fait que le déploiement de la livraison 2 du programme CASA est reporté. Quand les gens qui nous écoutent aujourd'hui, je viens vous dire que c'est reporter une livraison. Ce que vous devez savoir, un report de livraison implique, à part l'échéancier, un coût supplémentaire.
C'est clair. Un plus un fait deux. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure en ondes avec Antonine.
Ça, c'est Éric Kerr. Maintenant, M. Bonnardel, et j'ai vu son tweet récemment, on nous a menti, on vous a menti. M. Bonnardel, je vous invite à lire le sommaire, page 23. La SAC n'est pas toujours transparente. Ça, c'est ils l'ont dit. Éric Ducharme, nul du cabinet des ministres des Transports, François Bonnardel, de sa répercussion finale. Et ce fait rassurante auprès de la SAC communique pour la première fois le budget total du programme CASA au cabinet de François Bonnardel en janvier 2021. M. Bonnardel, quand il s'est levé au Parlement pour répondre à ma question au mois de mars 2025, il disait « on nous a menti, on vous a menti ». M. Bonnardel ne peut pas maintenir la même ligne aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a eu une présentation du programme CASA et le report et le budget en janvier 2021. La suite, bah vous le savez, Mme Guilbeault, M. Koskinen, le chef de cabinet de M. Le Premier ministre, ainsi que Dominique Savoie, ils ont très bien documenté les augmentations de coûts.
Mais on comprend quand même que la SAC donnait jamais vraiment le portrait, qu'il y avait une volonté de mettre les choses un peu plus belles qu'elles étaient. Ça, ça fait aussi partie de la problématique, là.
Oui, mais moi, je réponds à la question qui vient d'être posée. Ça n'exclut pas que la SAC a aussi envoyé de la formation.
Les deux ont
cohabité, là. Oh oui, les deux, là. Je dis pas. D'ailleurs, je blâme le gouvernement. Pourquoi? Parce que nous voulions, au Parti libéral du Québec, interpeller la SAC en fonction des outils parlementaires que nous avons, que vous connaissez très bien. Mais le gouvernement a voté contre. Pourquoi ils ne nous ont pas donné accès à interpeller les membres? S'ils voulaient vraiment nous aider à faire notre travail. Donc aujourd'hui, oui, je blâme la SAC. Mais écoutez, les gens qui nous écoutent, ils n'ont pas voté pour la SAC pour nous gouverner. Les gens qui nous écoutent n'ont pas donné un mandat majoritaire au gouvernement caquiste. S'il y a quelqu'un qui doit être imputable aujourd'hui, c'est le gouvernement et les ministres responsables.
Bien, d'ailleurs, parlant d'imputabilité, on dirait que la responsabilité est partagée. Il y a comme plein de petits morceaux dans les mains de tout le monde. Là. Qui, dans les prochaines années, avec les recommandations qu'il y a dans le rapport, là, mais par exemple, si vous gagnez la prochaine élection, vous êtes au ministère de la Santé, puis là, vous devez faire un projet numérique. Premièrement, vous êtes terrorisé parce que tout le monde va être terrorisé maintenant de finir en commission d'enquête parce que les projets informatiques finissent souvent vraiment très mal. Mais est-ce que c'est le ministère, le ministre qui est responsable du ministère dans lequel il y a le projet qui doit être responsable, ou est-ce que ça devrait être le ministère de la cybersécurité et du numérique? Est-ce que c'est le premier ministre? C'est qui doit... Parce que s'il n'y a pas une personne finalement responsable, personne n'est responsable.
Ben, vous avez raison. D'ailleurs, parmi les bonnes recommandations de la Commission, c'est justement, il n'était pas chaud à l'idée de créer une nouvelle structure. Et je sais que la CAQ aime ça, les nouvelles structures. Je leur dis déjà, elle vous dit que c'est une mauvaise idée. Ce qu'il le point sur lequel il a beaucoup insisté le juge, c'est dire, donnons les moyens au ministère de la cybersécurité. Lui, il parlait d'un Tiger Team, vraiment une unité.
Des gens compétents. Là.
Absolument, qu'on leur donne les moyens, qu'on leur donne le budget et que ça devient un peu le chien de garde des transformations numériques. Ceci étant dit, il propose d'autres ajouts, le juge. C'est renforcer la gouvernance des sociétés d'État. Et là, vous le savez qu'il y a des gens qui étaient au conseil d'administration que pour eux, parler IT ou transformation numérique, c'est du chinois. Donc, il dit que si vous avez une transformation numérique, assurez-vous d'avoir les bonnes personnes à la bonne place. Donc, améliorer la gouvernance, se doter des gens compétents à l'intérieur du conseil d'administration. Et écoutez, pour parler d'imputabilité, vous avez raison de la mentionner, clarifier la responsabilité des ministres qui ont tutelle ces sociétés d'État. Parce que parfois, on dit j'ai cette société d'État sous ma responsabilité, mais quelle est l'imputabilité, quelle est la responsabilité de ce ministre quand ça ne fonctionne pas ou quand ça ne marche pas à l'intérieur d'une société d'État. Mais il y a pas mal de très bonnes recommandations. J'espère que le gouvernement va les mettre en place. Ça touche la gouvernance des sociétés d'État. Ça touche le ministère de la cybersécurité et du numérique pour lui donner plus de pouvoir et des moyens et aussi renforcer le rôle des chiens de garde, l'autorité des marchés publics.
Mm-hmm. Êtes-vous inquiet par rapport aux transformations numériques qui ont l'importance à l'heure actuelle? Je pense par exemple à santé numérique avec ce qui vient de se passer à Satellite puis les dépassements de coûts qu'on sait déjà dans les autres programmes.
Ben, je pense qu'il y a déjà un dépassement de coûts au niveau du ministère de la Santé. Ça a été déjà publié et je pense qu'ils sont en train d'arrêter l'hémorragie. Mais j'espère que le gouvernement, à partir d'aujourd'hui, n'ont plus le droit à l'erreur. D'ailleurs, ils doivent revoir les processus de gestion de contrats, de gouvernance dans les sociétés d'État, renforcer le rôle du ministère de la cybersécurité et du numérique. Ça, c'est un point qui est essentiel et que les ministres soient imputables. Parce que sinon, comment on va regagner la confiance du public? Mettez-vous à la place des gens qui nous écoutent. On a perdu 1 milliard, ça a été confirmé aujourd'hui par la SAC. 1 milliard, la transformation numérique, pour un site transactionnel. Et là, on leur dit, on va informatiser le ministère de la Justice, on va informatiser le ministère de la Santé, vos prises de sang, on va tout informatiser. C'est obligatoire l'informatisation, la digitalisation. Et le commissaire ne dit pas qu'il faut arrêter. Mais si on ne met pas les bonnes structures en place, on risque de revivre un autre scandale Satellite.
Et comment on fait pour attirer des gens compétents au gouvernement? Parce qu'on le sait, ce n'est pas attractif pour les top guns informatiques d'aller travailler au gouvernement. C'est très en retard au niveau des technologies. Il y a des fois des conditions de travail plus intéressantes pour les experts en TI dans le privé. Comment on va faire pour les attirer?
C'est une très bonne question. Moi, je pense qu'on n'a plus le choix. Pourquoi? Avec ce qu'on vient de vivre avec la SAC, si l'État québécois, les contribuables, veulent vivre d'autres drames, de fiascos, de dépassements de coûts, je pense qu'on a la meilleure recette. C'est la recette qui a été utilisée les dernières années. Et ça a donné un fiasco. Et on ne peut pas ne pas faire de transformation numérique. Vous savez, continuer à travailler avec des fax, que le réseau de la santé ne parle pas, ils ne communiquent pas, les médecins entre eux, avec les pharmaciens, avec les autres intervenants, c'est très difficile et c'est très complexe. Et il y a un coût associé à cela. Maintenant, est-ce qu'on veut se doter d'un vrai chien de garde? Ça a été dit. Renforcer le ministère de la cybersécurité. Trouver des moyens d'attirer les talents? La réponse est oui. Pourquoi? Parce qu'en face de nous, nous avons des compagnies en technologie de l'information qui ont des budgets que parfois dépassent les budgets d'État. Donc, ils maîtrisent l'art de la technique, donc le langage, SAP et autres. Toutes les compagnies, ils ont des experts. Ils savent c'est quoi le besoin, ils savent comment vendre ce besoin et c'est là où probablement il y a une lacune au niveau de l'administration publique, c'est avoir les ressources compétentes pour pouvoir négocier et échanger sur le même pied d'égalité avec ces ressources.
Donc, vous êtes d'accord qu'on va devoir investir un peu pour justement réussir à arrêter de perdre l'argent dans des contrats informatiques? Là, on parle de dépassement de 500 millions.
Moi, j'ai la blague. Prenons les trois meilleurs au Québec, donnons-leur 10 millions par année, puis on ne perdra pas un milliard.
écoutez, 10 millions, je ne sais pas c'est quoi le montant, mais clairement, si on continue de faire ce qu'on faisait depuis la création du ministère de la cybersécurité numérique, on s'en va vers le mur. C'est, aujourd'hui, c'est là, c'est ça le constat. Mm-hmm. On ne peut pas continuer à fonctionner de la même façon que le ministère de la cybersécurité fonctionnait. Il faut lui donner beaucoup d'outils, il faut lui donner beaucoup de pouvoir. Et ça a été mentionné dans le rapport, les autres sociétés d'État au ministère doivent parler davantage et impliquer les experts de ce ministère.
Pour rappel, on parle avec Moncef Déragé, qui est député de Néligan et porte-parole en matière de transport et de santé. On fait le tour du rapport de la commission Galland. Monsieur Déragé, je veux que vous tranchiez sur un débat que j'avais avec Antonine Iaccarini tout à l'heure. Moi, je disais, faut réintégrer Marois Risky dans le caucus libéral. Elle est très populaire auprès de la population et elle a décrié de la corruption qui s'est faite dans l'équipe de Pablo Rodriguez. Antonine disait, oh, minute, elle n'a pas joué en équipe. Le caucus ne peut pas le reprendre. On vient de parler à l'ex-ministre Christine Saint-Pierre qui me dit, le caucus avant tout. Donc là, je perds 2-1. Est-ce que je vais perdre 3-1 avec M. Déragi?
Je risque de vous décevoir.
Allez-y donc.
Ce n'est pas un débat facile, c'est un débat qu'on va avoir et je dois respecter la confidentialité des discussions au sein du caucus.
C'est clair.
Et écoutez, la seule chose que j'ai à vous dire là, j'ai beaucoup de collègues autour de la table qui sont très intègres et rigoureux. Et, écoutez, c'est une discussion qu'on va avoir en caucus avec notre chef.
D'accord. Mais ça vous a fait mal quand même, sa sortie comme ça, de la façon qu'elle l'a fait?
Non, écoutez, nous avons vécu tous des moments très difficiles le temps dernier. Il ne faut pas se le cacher. Et le chef Charles Millard, hier, l'a très bien dit. Il ne se cache pas. Là, maintenant, on a une job à faire. On a une campagne électorale à préparer. Le chef, il est prêt. Il est prêt. Et il veut vraiment avoir une bonne plateforme parce que les Québécois s'attendent du Parti libéral, un parti rigoureux avec des bonnes propositions. Regardez ce qui se passe au niveau des finances publiques, au niveau des missions essentielles de l'État. Les Québécois s'attendent de nous, s'attendent du Parti libéral d'être là. Et on va être là.
Ça va être un défi quand même de tourner la page parce que je me doute que vous avez tous hâte de tourner la page, mais il y a quand même pas mal de choses encore en suspens, notamment une enquête de l'UPAC, la poursuite de Mme Risky et de Mme Hintz. Donc, ça va continuer de flotter un peu dans les airs. À posteriori, quand on revisite un peu ce qui s'est passé pendant la crise, est-ce que Mme Risky aurait dû, peu importe ce qui s'est passé et ses raisons, est-ce qu'elle aurait dû impliquer M. Rodriguez dans sa décision avant de mettre la directrice de cabinet à la porte?
Écoutez, je n'étais pas là dans les discussions entre Mme Risky et M. Pablo Rodriguez. Je ne sais pas réellement ce qui s'est passé entre les deux. Donc, ça serait pour moi pas rigoureux, et vous me connaissez, quelqu'un de très rigoureux, de commencer à interpréter ou commenter une situation où je n'étais pas juge, où je n'étais pas témoin. Ce qui s'est passé entre les deux reste entre les deux. Il y a un processus judiciarisé maintenant. Je dois me garder le réserve de ne pas commenter un processus qui est judiciarisé. Oui, il y a des enquêtes. On va attendre les enquêtes. Ceci étant dit, on vient au Parlement pour livrer et pour travailler pour les Québécois, les 9 millions de Québécois. Et les 9 millions de Québécois demandent au Parti libéral de faire son travail, de contrôler l'action gouvernementale. Il y a un budget qui se prépare, il y a l'état des finances publiques que les gens n'aiment pas, et l'état du service, que ce soit la santé ou l'éducation, et c'est ce qu'on va continuer à faire.
Monsieur Déragé, on vous remercie infiniment pour votre présence en studio aujourd'hui. C'est très, très, très apprécié. On vous souhaite une bonne continuité. Vous allez faire beaucoup d'entrevues aujourd'hui, j'imagine?
Je pense que le dossier s'impose.
On est choyé de vous avoir eu en premier ici en studio à Boulevard 101. Merci de votre présence.
Merci à vous.
Après la pause, on parle avec Alex Laramé, chronique Jeux olympiques, parce que médaille d'argent aujourd'hui pour les Canadiens. Puis on va revenir évidemment sur ce très beau tournoi de hockey. Êtes-vous devenu fan de Macklin Celebrini, M. Déragé?
Désolé, j'ai été comme l'impression que j'ai terminé.
Ouais. Oui. Êtes-vous devenu fan de Macklin Celebrini, le jeune joueur de 19 ans de hockey?
Absolument. Ah, absolument. Oui, hein? Et je dirais, je tiens à saluer la performance de nos joueurs, de nos athlètes aux Olympiques. Sérieux, hier, la médaille d'or,
ça a été.
Et surtout, ça arrive qu'après qu'il a presque pas perdu, parce que j'ai senti un peu de, pas de déception, mais la médaille d'argent, c'est une médaille d'argent quand même, et je le félicite. Mais gagner une médaille d'or de cette façon, Wow, c'était vraiment impressionnant. Ça m'a beaucoup touché hier.
Puis je veux juste vous dire, M. Déragi, que Jeff me fait toujours le coup. Quand je termine mon caucus, je viens pour m'en aller, puis il me lance une question de sport, puis je ne sais même pas de qui il parle. Donc, bravo, vous en êtes bien sorti.
Heureusement, j'ai bien suivi hier parce que ça m'a touché la médaille d'or, sérieusement. Je l'ai vu parler à plusieurs médias, mais on dirait, ah non, non, valorise la médaille d'argent, on t'aime bien.
Merci, M. Déragi. Alex Laramé, immédiatement après cette courte pause, chronique Jeux olympiques.